Yes, sir, c'est vendredi matin. Bon vendredi. J'espère que vous êtes de bonne humeur, vous êtes en télétravail. Je le sais que vous êtes tanné de travailler dans la cuisine. Puis, mais que voulez-vous? C'est ça la période actuelle. Puis, j'entends de plus en plus de gens qui ont hâte de retourner au bureau. Mais je suis pas mal certain que deux jours au bureau, trois... Mm-hmm. Tu sais, moi, je travaillerai le jeudi. Je suis au bureau tous les jeudis après-midi, moi.
Oui, hein?
Ah, ouais, hey!
Mais nous autres, ça va marcher demain, là, ma blonde. Je suis convaincu que c'est ça qui va arriver. Deux à trois jours, une place, puis deux à trois jours, l'autre place.
C'est ça, exact. Mais en même temps, et ça va peut-être permettre aux entreprises de diminuer le nombre de pieds carrés d'espace locatif. T'sais, moi, je regarde l'entreprise pour qui on travaille ici, Cogeco, là. C'est grand bâtin. On a deux étages de bureaux, là, mm-hmm. ou d'espace, ou un étage et demi, mettons, ouais. à peu près.
On a perdu la moitié, dans la dernière année.
C'est ça. Puis là, il n'y a personne. Là. On est tout le temps tout seul ici. Fait que, tu sais, même moi, j'ai un bureau. Je l'ai offert à Landry. J'ai croisé Jérôme Landry hier, qui commence lundi, by the way. Jérôme Landry et Dan Bigra. C'est Jérôme Landry et Jonathan Trudeau. Je pensais que c'était avec Dan Bigra.
C'est différent un peu.
M'excuse.
Ouais, bon.
J'ai offert mon bureau. Il dit qu'il ne voulait pas, mais c'est ça. Il y a de l'espace en masse.
Tu as été capable de dire, il était où ton bureau?
Non, mais j'ai demandé à France, la réceptionniste. Fait que, elle lui a expliqué c'était lequel.
Et ben, ça m'intéresserait, moi, ton bureau. Je l'aurais besoin chez nous.
À l'époque où je faisais le midi, tu sais que j'avais fait enlever mon bureau puis ma chaise. Hein? J'avais un bureau avec un téléphone puis une chaise. J'avais fait enlever ça puis j'avais fait mettre un divan. Parce qu'il fallait que je fasse des petits dodos.
Il arrivait le midi, il fallait qu'il dorme.
Je dormais tout le temps jusqu'à 11h30. Fait que ça se passait très, très bien. Vous le voyez, nous, le soleil ici frappe de plein fouet dans nos vitrines qui donnent sur le parc Hollande. Donc, c'est très, très beau. Une superbe journée aujourd'hui. C'est pas une journée de canicule, là. On aura 26 au maximum.
Parfait.
En après-midi, ça va être parfait. On va être super bien. C'est 16 degrés actuellement. On a un copier-coller pour demain, donc ça va être encore une fois exceptionnel. J'allais dire, ça va être le fun dans tous les festivals dans les petits villages. On va avoir un beau week-end. Il n'y en a pas. Fait que, mais il y a bien du monde qui vont s'organiser, j'imagine, des parties en respectant les consignes de la santé publique, mais qui vont s'organiser peut-être quelques petits soupers entre amis ou des choses comme celle-là au cours du week-end extraordinaire qui s'en vient. C'est l'heure des nouvelles. Voici donc l'actualité de ce 7 août 2020. ICP, que se passe-t-il dans l'actualité?
Hier, on jasait d'une opération policière avec les motocyclistes là, et les cyclomoteurs. Puis ça s'est résulté en 102 constats qui ont été émis. Principalement, les policiers étaient dans le secteur de Sainte-Foy. 125 avertissements, 4 remorquages, une arrestation. Et c'est une autre clientèle qui sera visée par une opération policière en fin de semaine, donc 8 et 9 août, samedi, dimanche. Ce sera dans l'arrondissement de Ray-Cloutier, l'arrondissement Charlebourg, dans le secteur du lac des Roches. Et cette fois-ci, ce sera les utilisateurs de véhicules hors route. Alors, type VTT ou motocross, ils seront ciblés par une opération policière. On veut vérifier que vos véhicules peuvent circuler, alors qu'ils sont corrects dans la mécanique, entre autres, et que vous circulez sur les terrains approprié pour le faire, ouais. Sans quoi vous êtes passé d'une amende de 450 à 900 $.
Ça gosse souvent, là, que ce soit les VTT ou encore l'opération des motos hier. C'est sûr qu'il y a des contrevenants qui n'ont pas de permis ou le basic n'est pas plaqué ou il y a des choses qui sont plus sérieuses. Mais des fois, les miroirs n'ont pas tout à fait la bonne grandeur ou les véhicules hors route, des fois, il y a des VTT qui n'en ont pas de miroir. Les gars, ils ont cassé ou ils ont enlevé ou il n'y en avait tout simplement pas. Il y a toutes sortes de petits détails. Je connais pas toutes les règles, mais des fois, ça peut être gossant pour des niaiseries.
Savais-tu qu'il fallait avoir une permission écrite du propriétaire pour pratiquer, mettons, le VTT, là, sur un terrain privé et sur les terrains de la Ville de Québec, si jamais vous empruntez ou le véhicule ou le terrain en tant que
non,
tel?
Honnêtement, je ne connais pas les règles, surtout dans ces véhicules-là. Là. T'sais, par exemple, quelqu'un qui a un 4 roues, puis il veut... Mettons qu'il y a des tours d'hydro en face de chez eux. Mm-hmm. Dans Charlebourg, là, c'est beaucoup ça, là, la ligne d'hydro, là. Est-ce que t'as le droit de circuler dans le sens de la circulation avec un VTT? Tu sais, un skidoo, t'as pas le droit. Mm-hmm. Un skidoo, tu peux juste traverser la chaussée. C'est tout ce que tu peux faire.
Saguenay, ils font pas mal ce qu'ils veulent.
Ouais, c'est ça. Mais je sais pas exactement quelles sont les règles. En tout cas, ministère de la Police va sensibiliser le monde dans ce coin-là en leur donnant des tickets.
Charlebourg, secteur Lac des Roches.
C'est là que ça va se passer en fin de semaine. Ensuite,
il y a un homme de Drummondville qui a été arrêté hier soir pour avoir proféré des menaces sur Internet à l'endroit de qui? À l'endroit du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Il a été arrêté vers 20h30. Et là, c'est pas les mêmes hommes desquels je vous ai parlé là, dans les derniers jours. C'est un autre. Et lui devrait comparaître aujourd'hui pour être accusé de menaces, d'intimidation et de harcèlement. Ce qui s'est passé, c'est sur sa page Facebook, sous un pseudonyme, il a partagé une publication qui invite les gens à aller chez Horacio Arruda, à cogner dans les fenêtres. Et la Sûreté du Québec, bon, il y a vraiment la mèche courte là, du côté de la Sûreté du Québec par rapport à ce genre de comportement-là. On rapporte avoir arrêté plusieurs personnes au courant des dernières semaines pour avoir proféré des menaces ou encore avoir eu ce genre de comportement sur les réseaux sociaux. Puis rappelez-vous, là, cette semaine, il y a un homme de Sainte-Brigitte de Laval ici là, qui a été arrêté pour avoir proféré des menaces sur François Legault et Horacio Arruda aussi.
J'aime ça. J'aime beaucoup la vague dans laquelle on est. Ça va justement un peu assainir puisqu'il peut se faire sur les réseaux sociaux. Ça corrigera pas. Ça peut assainir un peu quand t'es rendu à écrire, à inviter. Tu sais, il y a quelques temps, là, on aurait lu ça. Allez, chez Arruda, puis cogner dans les vitres. On aurait juste skippé, tu sais. On aurait laissé passer. Maintenant, ça passe pas. Les gens sont arrêtés, vont être appelés à comparaître devant le tribunal. Mais moi, j'aimerais ça qu'après ça, la police dise, hey, gars, embarque ici, mon Roger. On va aller faire un petit tour au CHUL, voir si t'aurais pas besoin d'une pilule ou deux. Tu sais, parce que c'est clair qu'il y a un déséquilibre quelque part, là. C'est pas juste de l'agressivité mal placée, là. Il y a peut-être des cas de santé mentale à bien des places avec des gestes comme ceux-là.
Un dossier qui a avancé, c'est le dossier où il y a 280 présumées victimes de religieuses de la Congrégation des Sœurs de la Charité qui vont pouvoir maintenant aller de l'avant avec un recours collectif. Hier, la Cour supérieure a autorisé le recours pour des abus et sévices sexuels allégués. C'est des gestes qui seraient survenus à l'orphelinat du Mont-Diouville entre les années 1925 et 1996. Alors, c'est presque 70 ans là, de différence. Il y a 71 abuseurs, dont 55 religieuses qui auraient pris part à des abus sexuels, physiques, psychologiques. Jusqu'à maintenant, on réclame une somme de 2 millions de dollars en dommages et compensations. Mais bien sûr, Pierre l'a souligné ce matin, il y a des gens qui vont s'ajouter au recours collectif, qui ont déjà levé la main en ayant dit qu'ils avaient justement subi ces abus-là, quels qu'ils soient. Alors, ça peut augmenter le montant au courant des prochains jours. Mm-hmm. Il y a un gars, un résident de Beauport. Oui?
Est-ce qu'on le fera probablement pas, mais j'ai de la misère à pas à comprendre. J'ai de la misère à m'imaginer quel genre d'abus sexuel, des religieuses, on peut...
Veux-tu que je t'en lise un extrait?
Mm-hmm. Ouais. C'était-tu des enfants à ce moment-là?
Oui.
De quel âge à peu près?
De tous les âges, mais c'est jeune adolescent, jusqu'à de jeune adolescent, mais il y a du 7-8 ans aussi.
Nous. Juste des garçons?
Non.
Des religieuses qui ont agressé des jeunes femmes et des jeunes hommes?
Oui, c'est bizarre de même. J'essaie de le retrouver. Là. Mont-Diouville, je lis ici. C'est ça. À chacune de ces occasions, la sœur l'assoyait sur ses genoux, lui enlevait sa petite culotte et lui touchait le pubis et la vulve pendant plusieurs minutes, peut-on lire dans la demande d'autorisation. Tout au long du séjour de 5 ans au sein de l'établissement, l'enfant aurait également subi d'innombrables agressions physiques et psychologiques de la part d'autres religieuses. Donc, tu sais, elle aurait notamment été obligée de terminer un plat dans lequel elle avait vomi.
Okay. Ça, c'est de l'abus physique.
Oui, c'est ça. Ben, t'as abus physique, sexuel et psychologique. Là.
Pis des, on...
Elle avait 7 ans, la petite fille dont je te parle. Là.
OK. Puis actuellement, est-ce qu'elle est la seule victime? Puis on en recherche d'autres?
De ce que j'ai compris, en fait, il y a quelqu'un qui est à la tête du recours collectif. Puis là, t'as une cinquantaine de personnes qui se sont ajoutées, dont cet exemple-là. Là.
280 présumées victimes. Ah. 280.
De connues maintenant, là.
Qui ne sont pas toutes sorties à nom. Les noms ne sont pas dans les médias de toutes ces 280 victimes-là, présumées victimes, mais oui, on est capable de les recenser.
Bon.
C'est du monde, là.
Exact, mais c'est dommage. Ben, c'est pas dommage, là, on est dans un recours collectif.
Mais c'est 70 ans, hein? 1925 à 1996.
C'est ça, c'est des gens qui ont 70 ans. Imaginez le temps qu'on procède dans ça. Ils verront jamais la fin de ça, probablement.
Non, mais ils veulent que l'Église paye.
Ouais, que l'Église paye, ouais. Il y aura pas de condamnation, puis probablement que les religieuses qui faisaient ces gestes-là sont décédées maintenant. Ouais. Fait que c'est d'aller...
Oui, parce que l'histoire que je t'ai contée, c'est entre autres à la fin des années 50. Fait que t'auras compris que...
C'est ça. Mais
ça s'est passé durant 71 ans en tout de ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Fait qu'il y en a des années là-dedans. Il y en a des choses qui peuvent s'être passées.
Tu sais, peut-être que quand on écrira les livres d'histoire un jour, il faudra constater que dans les années 40 à 60, 70, la religion a été plus que néfaste pour une communauté. Puis ce qui est grave là-dedans, c'est que nous autres, avec recul, avec beaucoup d'années de retard, on regarde ça, on dit, c'était donc bien néfaste, la religion qui se mêlait des vies du monde, puis que, tu sais, qu'il y avait des contrôles puis des abus à des endroits.
Il y avait de la pression, on venait cogner chez vous si t'étais pas enceinte, ouais.
C'est ça, des affaires comme ça. Mais, parallèlement à ça, aujourd'hui, en 2020, il y a encore beaucoup de coins dans le monde où on est à peu près au même niveau face à la religion catholique. Tu sais, il y a des endroits là en Afrique ou même ailleurs où la religion catholique est à peu près dans l'état où elle était au Québec dans ces années-là. Fait qu'imaginez qu'il y a beaucoup d'endroits où on a beaucoup de progrès à faire. La religion qui a pas été... La religion qui doit toujours être séparée de l'État, là, on le comprend maintenant. Ça a été long avant de le comprendre, mais il faut l'accepter et vivre avec ça aujourd'hui.
Ça vient tout juste de sortir pendant qu'on jasait de ça. Il y a les enquêteurs du poste de la MRC de la Jacques-Cartier. Ils ont procédé à l'arrestation de François Levasseur. C'est qui cet homme? C'est un homme qui est en lien avec le décès de Philippe Véraud, qui est décédé à Stoneham le 15 juillet dernier. Rappelez-vous, un peu avant minuit, le soir du 15 juillet, Philippe Véraud a été heurté violemment par le véhicule de M. Levasseur. C'était sur la première avenue à Stoneham. Donc, le jeune homme de 26 ans circulait à pied sur l'avenue puis était justement en collision avec le véhicule. Son décès a été malheureusement constaté sur les lieux de l'événement. Il paraît que ça a été extrêmement difficile pour les gens qui sont intervenus, là, même des gens dont c'est le métier. François Levasseur.
C'était la nuit, ça?
C'était la nuit, oui. Okay. Il sortait, c'était face à la souche du côté de Stoneham, là. Okay. Puis François Levasseur, le conducteur, a été blessé grièvement. Lui, il a fait la collision, puis après ça, il a fait une embardée. Il a été transporté au centre hospitalier. Et là, ce jeune homme de 25 ans là, de Stoneham a été arrêté pour conduite dangereuse ayant causé la mort. Il est présentement, en ce moment, là, rencontré par les enquêteurs et devrait comparaître cet après-midi par vidéo comparution.
OK, donc pas de faculté affaublie, mais plutôt
pour
conduite dangereuse.
Ouais,
ça veut dire qu'elle est trop vite? Ou
C'est ce qu'on comprend.
OK, ouais, ouais, d'accord. Ouais.
Il y a un jeune homme de Beauport, je vous en parlais, c'est un résident de Beauport qui avait été arrêté à Toronto pour proxénétisme. Ça fait quelques semaines qu'on en a parlé, mais il a finalement plaidé coupable. Il a reçu une peine de 36 mois pour une série d'accusations de vol, en plus d'avoir admis qu'il avait contacté sa victime pendant sa détention. Le Journal de Québec en parle. On dit qu'il avait été recherché par la police de Québec à la fin février. Il s'appelle Malik Régélé Marc. Il avait finalement été arrêté à Toronto, comme je vous disais, ramené à Québec pour sa comparution. C'est un homme de 21 ans. Il a été accusé d'avoir amené une personne mineure à offrir des services sexuels qui moyennaient bien sûr rétribution et d'avoir fait de la publicité pour offrir les services sexuels de sa victime. Pendant qu'il était en prison, il a appelé sa victime directement à sa cellule pour l'intimider. Victime mineure, il lui demandait notamment pourquoi elle avait porté plainte. Alors ça l'a fait beaucoup peur à cette jeune fille-là qui en a parlé à la procureure, maître Julie Roy, qui s'en est mêlée. Elle a dit au juge que le proxénète avait profité de la vulnérabilité de la jeune fille pour la terroriser, qu'elle a eu très peur. Et à ça s'ajoute un drôle de passé pour Malik Régélé Marc, en plus de ce que je vous dis, le proxénétisme. Lui a reconnu ses torts aussi dans d'autres dossiers, comme plusieurs dossiers de fraude, de vol. Il avait à plusieurs reprises profité à son avantage de pièces d'identité volées. Il a aussi utilisé des cartes bancaires de d'autres victimes pour subtiliser près de 8 000 $. Il a reculé devant rien, c'est ce qu'on écrit. Il a aussi payé dans des dépanneurs avec de faux billets américains, mais t'sais, des billets grossiers. Là. On voyait dessus « copie » écrit en rouge.
Il avait dessiné la face de Washington à la main.
À la limite, ils avaient écrit. Ouais, je comprends. Mais c'était vraiment des billets grossiers. Là. Évidemment, on voyait que c'était faux. Et pour l'ensemble des crimes que je viens de vous énumérer, il a reçu une peine de 36 mois de détention.
Mm-hmm. Un autre gars qui va continuer dans le même domaine. Là. Juste le temps de prendre des petites vacances, puis après ça va se poursuivre exactement au même niveau.
Si je te parle de semences, est-ce que ça dit quelque chose dans l'actualité, Steph?
Oui, j'ai entendu. Je vous ai entendu ce matin. Je trouve ça un peu ridicule. Là, mais...
En gros, il y a plein de paquets de semences louches qui ont été envoyés au Canada et aux États-Unis. dernièrement. Ce qu'on demandait, c'est de pas les planter. Parce que ça provenait de la Chine, de ce qu'on comprenait. Puis on n'a aucune idée c'était quoi les plantes. Est-ce que c'est une plante qui peut être phytoravageuse? Ça peut-tu être nuisible pour, au Canada, certaines zones agricoles?
Ça peut être du pot.
Ça peut-tu causer des dommages aussi à nos ressources végétales? Ça pourrait être une nouvelle forme de guerre, là, quand on regarde ça, certains spécialistes. Mais c'est pour ça qu'on se disait, aussitôt que vous recevez ça, vous les jetez pas. Faut pas que ça aille dans des sites d'enfouissement puis que ça pousse là. Et vous les plantez pas. L'Agence canadienne d'inspection des aliments veut avoir les semences. Et il y a une dame du côté de Dolbeau-Mistassini qui, elle, les a plantées. Comment elle explique le fait de les avoir plantées? Ça a poussé de 120 cm dans sa cour arrière. Là, c'est 4 pieds de drôles de plantes que personne connaît. Elle dit, j'avais demandé des semences, j'avais commandé des semences pour planter des cactus, puis là, je pensais que c'était ça.
Ça va bien.
Une collègue de la radio. Une collègue de la radio à Alma, à Planète 99.5. C'est une animatrice là-bas qui a planté
ça. C'est elle qui a planté ça. Ouais. Elle a fait sécher, puis elle a fumé ça, puis ça a donné cette nouvelle-là.
Je sais pas.
J'essaie de comprendre. Moi, de toute façon, là, Vert, as-tu un jardin, toi?
Non.
OK. Moi, là, moi, Huguette, qui s'occupe des plantes chez nous, à chaque année, là, depuis quelques années, elle me met dans des pots différents produits jardiniers, OK? Dont, cette année, un plant de tomate, un plant de cocombe, un plant de fèves. Puis, tout scrappé ça.
Ah, arrête, là. Tes cocombes étaient bien partis. Tes tomates oui, aussi.
Mais mes tomates, là, je pense qu'ils ont passé douette ou je ne sais pas ce que j'ai fait. Que
ils
j'ai
pas cueilli.
J'ai, ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui a commencé à manger avant que je les ramasse.
Ah oui.
Tu sais, ben, des genres de petites bébites, là. Ils ont toutes des galles. Non, je te dis, c'est dégueulasse.
Les bébites ou les
Tomates, je parle. Pas les galles. Les tomates, ils ont toutes des spots.
Des champignons, peut-être.
Ouais. Il faut que je parle à Marthe Laverdière parce que j'ai encore une fois un peu tout raté. Là, je sais pas, je trouve ça complexe. Ça demande beaucoup d'affection, un jardin.
En plus que tu m'as exploité la dernière fois pour aller gérer ça chez vous.
Ben oui, c'est toi qui nous as dit, écoute, mes tomates étaient cachées sous un paquet de feuilles, plus ou moins utiles. Fait qu'on en a enlevé une série. Mais je sais pas, j'ai pas assez frit. Je m'y connais pas assez en jardinage.
Tes concombres aussi. Fini.
Mais non, mes cocombes, ben là, sont pas prêts. On en a enlevé quelques-uns parce qu'on veut pas qu'il arrive la même affaire. Parce que l'année passée, quand j'ai voulu les ramasser, ils étaient tous à moitié mangés. Fait que.
Ça, c'est pas les enfants, t'es sûr?
Certain. C'est des petites bébites. Je sais pas c'est quoi. On est vraiment pas bon. C'est des fois. Il y a des domaines dans lesquels il faut que t'abandonnes, là, parce que tu peux pas être bon dans tout.
Puis, incluant strictement la personne qui parle.
C'est strictement la personne qui parle. Okay. J'ai deux grands flambeaux, là. Il y a des belles tomates rouges qui sortaient de ce plant-là, il y a quelques jours, même quelques semaine. Pas de sans danger que ça passe à côté puis ça en ramasse une. Hey, il y a l'arbre des tomates. Fait que, terminé.
Pauvre Huguette qui travaille fort.
Oui.
Il y a la vice-première ministre Chrystia Freeland qui a durement réagi à l'imposition par le gouvernement américain de tarifs douaniers sur certains produits d'aluminium du Canada. Alors, elle a affirmé que c'est une décision qui était injustifiée et inacceptable. Elle a ajouté que, contrairement aux prétentions du président, ben, l'aluminium canadien ne compromet pas la sécurité nationale des États-Unis. Elle ajoute qu'en période de pandémie mondiale, de crise économique, la dernière chose dont les travailleurs canadiens et américains ont besoin, c'est de l'imposition de nouveaux tarifs douaniers qui vont certainement augmenter les coûts, on s'entend, pour les fabricants et les consommateurs. Donc, elle a annoncé qu'en réponse aux tarifs douaniers américains, le Canada avait l'intention d'imposer rapidement des contre-mesures de valeur égale. Voilà, on est en train de se chicaner pour l'aluminium.
Et on conclut avec?
Je vais conclure avec celle-ci, alors, si tu souhaites que je conclue.
Je veux savoir, Beyrouth, est-ce qu'on
Laisse-moi en deux d'abord, OK? Les États-Unis ont enregistré hier plus de 2000 décès en 24 heures. C'est pour ça que je voulais souligner, c'est énorme. C'est des chiffres qui n'avaient pas été atteints depuis 3 mois. Alors, c'est 58 000 nouveaux cas aussi qui ont été détectés en 24 heures. À Beyrouth, ce qui se passe en ce moment, c'est que Québec va offrir $1 million en aide financière d'urgence pour soutenir des projets d'action humanitaire. Ça, c'est destiné à la population libanaise. Il y a de l'argent qui va être accordé à, pas à n'importe qui par contre, à des organismes de coopération internationale du Québec. Fait que des gens d'ici qui œuvrent au Liban et eux ont la capacité d'intervenir rapidement, efficacement dans ce type de situation. Et il y a aussi le gouvernement libanais qui a ordonné à ses policiers de lancer des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui sont descendus dans les rues de Beyrouth pour protester contre le régime au pouvoir après les explosions. Donc, c'est vraiment sans dessous-dessous là-bas. C'est l'agence France-Presse qui parle de tout ça. Elle dit « Les explosions dans le port de Beyrouth sont devenues le symbole de l'incompétence et de la corruption des autorités. »
Ouais. Fait que c'est à travers la tragédie, quand le mécontentement se fait sentir encore, ça démontre que la corruption et tout ça est tellement ancré profondément que les gens passent même pas par-dessus le fait que des centaines de personnes de leurs concitoyens soient décédés là-dedans.
Ben, il va peut-être même une occasion. Tu sais, c'est comme une porte qui s'ouvre.
Ouais, mais dans la tragédie, des fois, là, faut être assez fantasque pour profiter de l'occasion. Mais quand c'est tellement encrouté,
c'est ça.
C'est
leur quotidien, eux autres, là, d'être pognés là-dedans. Fait que peut-être que c'est. Je sais que c'est bizarre, c'est mal tourné, mais peut-être qu'ils voient dans ça une occasion de sortir de. Je sais pas. C'est quand t'es dedans, là.
Mais tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec. Je dis qu'est-ce qu'on va faire comme si c'est nous autres qui décidaient. Mais moi, je me souviens des dernières images qu'on a vues de la Syrie, là, quand même, ça fait longtemps. Mais c'est des villes, là, assez grosses villes complètement dévastées. Ouais. Les gens qui sortent des villes de par toutes les possibilités qu'ils ont, ils veulent s'en aller ailleurs. C'est quoi qu'on fait? On vide ces pays-là puis on amène tout le monde en Amérique.
Mais la phrase qui décrit en ce moment la situation là-bas, là, c'est super triste. On dit « Beyrouth a rendu l'âme ».
Ah ouais, c'est à ce niveau-là, là. Fait que, mais en même temps, ils peuvent se reconstruire, je veux dire.
Ça va être difficile en ce moment, vu la crise, autant financière que sociale. C'est vraiment pas beau en ce moment. Puis écoute, si tu rapportes ça à Québec, là, prends le port, mettons, de Québec, là, puis fais sauter une déflagration aussi grande que ce qui s'est passé à Beyrouth, puis Québec est à peu près rasé.
Ouais, c'est ça, à ce point-là, hein, le trou serait majeur. Il y aurait plus de Château-Frontenac sur la colline, là, c'est certain. Je comprends très bien que les impacts sont là, mais en même temps, à un moment donné, on peut pas abandonner et dire bon, on ferme ça, on s'en va tous vivre ailleurs.
Sais-tu comment c'est particulier? T'sais, si ça arrivait ici, là, bon, les premières personnes à réagir, ce seraient les autorités, l'ambulance, policiers, tout ça. Là-bas, les premiers à réagir, c'est comme la Croix-Rouge libanaise.
OK.
C'est à quel point ils n'ont pas de structure gouvernementale pour aider les citoyens.
Mais c'est parce que c'est des choix qu'ils ont faits. On est en 2020 quand même.
Mais on peut les critiquer, ces choix-là, par contre.
Très, très triste. Ce qui arrive là-bas. OK, 7h55 minutes. Vous êtes dans Dupont le matin. On vous a fait un résumé de l'actualité. C'est quand même relativement tranquille, ce qui se passe autour de nous. Il y a le sport qui reprend vie. Le hockey, là, qui va donner beaucoup de plaisir à bien du monde. Ce soir, entre autres, et 16h. Ce week-end. 16h. Moi, je trouve que c'est parfait pour l'heure.
Pas ce soir, le Canadien.
Ouais,
16h.
Je dis ce soir.
Tu dis toujours ce soir.
Mais moi, c'est 16h, c'est le soir.
16h, c'est tôt.
C'est la soirée commence
à 10.
Vous allez être habillés rapidement, les gars.
Hey, tu sais, c'est les foyers de vieux, ils soupent à 4h15. J'avoue, ça me décourage. J'étais découragé quand mes enfants allaient à l'école. Mes enfants allaient au... Pierre, tu t'en vas là, là. Quand les enfants allaient au primaire, dîner à 11h10. Ouais. Hey, moi, ça me faisait virer fou. Parce que, tu sais, des fois, on travaille, puis on les laissait au service de garde jusqu'à 4h30. Puis je sais que les services de garde des écoles, je pense qu'il y en a qui vont jusqu'à 5h30. Ouais. Il y a dîner à 11h10. Il a beau avoir pris une collation dans l'après-midi, là, il peut pas se rendre au souper si tu vas le chercher à 5h20, 5h30, puis que là, t'as le souper pas prêt. Il y a cette désorganisée. Je la comprends pas.
Ben, si tu donnes une autre collation à 5 heures, ben, le souper à 6h15, 6h30, il est plus complexe aussi.
C'est ça.
Ça rentre moins.
Ben oui. Puis, tu sais, l'autre affaire aussi que je trouvais un peu pathétique puis que je comprenais pas, bon, on envoie nos enfants à l'école. Bon, je prenais une journée typique de quelqu'un qui travaille à Québec, nous autres, mettons, qui restait sur la rive sud. Ouais. Fait qu'il faut qu'il parte un peu d'avance. Fait qu'il part de la maison vers 7h15. Il laisse les enfants au service de garde. OK? Mettons à 7h15. Puis il revient, mettons, à 5h15. Ça veut dire qu'il travaille de 7h30 à 4h30, ce qui est une journée normale, de 8h. Donc, on est vraiment dans la normalité des gens ici, là. Fait que, il est à l'école de 7h15 à 5h15, ce qui lui fait 8h, un peu plus de 8h à l'école.
Parce que lui, son dîner, il passe pareil à l'école.
Dîner, il est à l'école, mais c'est que sur cette période-là, il y avait de l'école uniquement, mettons, 4 heures de temps. L'autre 4h30, il était en service de garde. 1h30 sur l'heure du dîner, 1h le matin avec l'école commence, puis 2h le soir après que l'école soit finie.
4 périodes par jour d'1h, 1h15. Ouais, t'as raison.
Puis après ça, toi, t'arrives à la maison, puis là, tu gosses. Mais là, t'as une demi-heure de devoir à faire. Hey, je vous l'ai laissé à l'école. Vous avez des livres, des pupitres, des vous, tu sais.
Ça, il tentait pas de faire ses devoirs au service de garde.
Ouais. Moi, je comprends. Ça devrait être systématique.
Ben oui.
Parce que j'ai l'impression que les gens qui sont dans des services de garde, même s'ils n'ont pas une formation d'enseignant, seraient peut-être les mieux placés pour pour... bon, l'école finit, mettons, 3h15, 3h30, peu importe, là. OK, on joue pendant une demi-heure.
Ben oui, faire une coupure.
Puis ensuite, on commence les devoirs. Puis ceux qui partent durant que les devoirs sont commencés, c'est bien correct. Mais les autres... En plus, les enfants qui sont un peu en milieu défavorisé, il y en a beaucoup, ben là, il y aurait l'aide de quelqu'un qui serait plus attentionné à l'aider,
c'est
à le faire progresser.
C'est ton meilleur argument.
Puis ça s'empêche pas de faire un dessin si tes devoirs sont finis, là, je comprends très bien. Puis effectivement, si tu as ta petite coupure là, entre la fin des classes puis le début des travaux, c'est faux là, qu'il y ait une coupure là, la récré que tu l'allonges, puis c'est correct là, tu vas botter une coupe de ballon, mais c'est pas fou.
Ah, ça pis, c'est vraiment bon comme argument.
Parce que puis l'autre affaire, c'est que j'essayais de comprendre quelle était la nécessité qu'on ait des devoirs à la maison. Puis moi, en tout cas, j'ai trouvé que... Moi, j'étais poche à l'école, puis je suis poche là-dedans, là. Mais j'avais de la misère à aider mes enfants en plus. Puis l'autre affaire, c'est que... Puis c'est là que j'ai commencé à me questionner, à me dire, attends un peu, c'est-tu mon rôle des... Vraiment, les aider, oui, mais mon rôle de les corriger. T'sais, la majorité des parents, pour pas dire la presque totalité, ne laissent pas leurs enfants partir de la maison avec un devoir qui contient des fautes. Au pire, si l'enfant le trouve pas, ils vont le corriger à leur place.
Okay.
Là, y a pas de progression si tu fais ça. Tu sais, tu peux le guider. Des fois, tu le vois qu'il s'est trompé dans son calcul. Tu vas lui dire, ça marche pas. Mais compte-le pas à sa place. Tu sais, ou prédis pas ton téléphone pour qu'il trouve la réponse. Ben oui, il faut qu'il apprenne.
Le but, c'est d'apprendre. C'est pas d'avoir la bonne réponse.
Puis les devoirs, c'est le temps de se tromper, là. C'est pas comme l'examen.
C'est ça. Fait que moi, je les laissais avoir des erreurs. Mais en réalité, c'est parce que je les voyais pas toujours passer. Hey, moi, là, tu sais, ça a changé. En français, c'est quoi la star? C'est sujet, verbe, complément, moi.
Moi aussi.
Ça existe plus, ça.
Ben, c'est ce que j'allais te dire, là. Il y a eu un changement de vocabulaire complet pour, tu sais, même les participes passés, là. Tu cherches plus le complément d'objet direct. Tu cherches autre chose, je sais pas comment ça s'appelle. Puis là, il faut que tu t'établisses le dialogue
c'est quoi,
avec
c'est
tes
un
enfants.
Il y a un déterminant. Moi, je pensais que c'était tromper sa femme, ça. Mais non, ils m'ont dit, non, c'est utilisé en français.
Qu'est-ce que t'haïssais, toi, dans tes devoirs avec tes enfants? Mettons la matière que t'haïssais le plus.
Mais non, j'haïssais rien parce que j'avais instauré, honnêtement, avec mes enfants, là, ils ont été extraordinaires. Le mérite leur revient au grand complet parce que en me séparant au moment où ils sont très jeunes, en étant totalement désorganisé parce que c'était leur mère qui s'occupait de tout ça. Fait que là, la semaine qui vient avec moi, je dois créer un contexte d'organisation puis de dire, hey, le gros réveil, là. Et deux choses que j'ai instaurées qui, je pense, pour moi, juste pour ma période à moi où mes gars étaient là, ont été extrêmement bénéfiques. Première affaire, puis ça, je le dis souvent, chez nous, il n'y avait aucune règle. Et ça, ça a commencé pour une histoire de piscine, là, mais chez nous, aucune règle. Mais t'as l'obligation d'être intelligent. Ça veut dire que, je donne souvent l'exemple, si les enfants sautaient sur le divan, je dis « Hey, faites pas ça, là, que c'est ça sur le divan! » De toute façon, moi, je suis assez zen, je hurle pas, je crie pas, puis tu sais, j'ai été frappé un peu quand j'étais jeune. C'était ça, c'était la mode, là, non, ton père t'a donné une claque sur les fesses quand t'étais pas fin. Puis, et des fois, j'ai eu envie de pogner les nerfs, puis quand tu pognes les nerfs, c'est parce que toi, t'es à bout. C'est pas que le geste de l'enfant est extrêmement grave puis nécessite la force en aucun temps. Puis quand tu commences à penser à tout ça, tu deviens de plus en plus zen et tu tentes de trouver des sanctions qui vont être apportées de façon... Parce que si tu te mets à crier parce qu'il crie, parce qu'il va arrêter de crier, ben non.
Ben non.
C'est sûr que non.
Et puis ça, faut que tu le comprennes dès le départ, là.
Exact.
Dès qu'ils sont des mini-bébés, là, parce que sans ça,
très jeune.
Ben oui, puis c'est une des choses, ils te laissent jamais partir de l'hôpital après l'accouchement sans avoir fait, même si c'est ton troisième, je te le confirme, là, sans avoir fait un retour sur ça, sur le fait que, faut toujours que tu te parles. C'est jamais une bonne idée de pogner une...
C'est jamais.
Il n'y a aucune situation.
Mais ça crie, tu sais, je veux dire, des fois, moi, je le vois, là, j'en vois des parents crier après leurs enfants.
Oui.
Je le vois qu'ils le font en public. Moi, quand je vois au Walmart une mère crier comme un peu une hystérique après ses enfants dans un lieu comme ça, je me dis tout le temps, ça doit être terrible à la maison. Puis, elle se rend pas compte que ça n'avance absolument à rien de crier « Hey, tu fais là, maudit caboche! » Ça donne quoi de faire ça?
Rien.
Mais non, tu fais rien qui montrait que t'es pas bien, toi, puis il va marcher dans tes traces.
Puis c'est ça, il va perpétuer ce que tu fais.
Ouais.
Là, il
va reproduire ce que tu... C'est ça, exactement.
Puis, tu sais, j'ai mis une vidéo pendant la pandémie là, de mes enfants, puis les enfants à ma blonde, ils étaient dans la maison un avant-midi pendant que j'essayais de faire du pain que j'avais encore raté. Et ça a duré à peu près 1h15 d'un calme fou. Puis, ça gameait pas, là, parce que on avait établi des périodes. Un lisait...
Ça, c'est pour les devoirs, M. Dupont?
Hein?
Ça, c'est pour les devoirs que tu
dis? Non, c'était pas pour les devoirs, c'était durant la pandémie. Ah, oui, là, c'est que il y avait une période où un lisait un livre, Oli, je pense, faisait des dessins, un casse-tête. Je me souviens pas, mon plus vieux, il gossait après quoi, là, faudrait que je regarde la vidéo, mais... Mais ça, à un moment donné, ça se développe. Chez nous, ça crie jamais. Tu sais, comme... mettons, il y a une affaire que je trouvais bien. La seule criage qui existait encore, c'était « Hey, les gars, venez souper! » Parce qu'ils sont tout le temps enfermés dans la cave, comme des ratons laveurs. Fait que... comme des marmottes, plutôt. Hein. Fait que...
Ah, je connais ça.
Même ça, je le fais plus. C'est niaiseux, cette heure, mais au lieu de crier à travers les planchers, j'aime mieux texter, plutôt, d'en haut en bas, ou de prendre le temps de descendre pour leur dire... C'est juste que c'est rendu que ça m'énerve quand ça crie. J'ai 4 heures le matin pour crier après vous autres. On dirait que ça me libère de tout. Je reviens à quand je suis papa avec les enfants. Fait que j'établis soit pas de règles, mais soyons intelligents. Fait que quand ils sont sur le divan, je vais voir, hey, quand on a acheté le divan puis qu'ils l'ont construit, pensez-vous qu'ils se sont dit, OK, un enfant qui saute dessus, ça va-tu résister? C'est fait pour ça? Pensez-vous que ça a de l'allure? Puis tu le donnes pas la réponse, c'est systématique qu'ils le font plus. C'est incroyable comment ça marche de leur dire, ce que tu viens de faire, penses-tu que c'est intelligent? Et ils vont être plus sévères envers eux-mêmes.
Oui, parce qu'ils sont obligés de réfléchir à la question là, puis de trouver la bonne réponse. Hein.
Puis je donne toujours l'exemple qu'il y a une fois où ça revirait contre moi, c'est ils couraient autour de la piscine. Hey, on court pas autour de la piscine. Hey, il n'y a pas de règle. Ben, courez pas, qu'est-ce qui peut arriver? C'est pas intelligent? Ben, c'est drôle, ça se fait, tu nous laisses courir. Ben oui, mais on joue au hockey. Ouais, ben, autour de la piscine, si on se pousse pas, c'est pas dangereux. Ouais, mais si tu te cognes, tu tombes de, tu sais, ça avait emmené une discussion, puis là, j'ai pédalé pour en discuter avec eux autres, tu comprends? Fait que, c'est pour ça que, mais ça t'amène toi aussi à réfléchir. Des fois, tu mets des règles. Ben, c'est ça, parce que c'est ça.
Ouais, c'est ça. T'as pas le droit de dire ça. Tu sais pas d'où ils viennent, puis tu y penses comme il faut. C'est niaiseux, ce règle-là.
Ouais. Ma sœur, elle a fait ça. Ce que tu fais, Steph, ben, ce que t'as fait, parce que tes fils sont assez vieux. Elle a dit à ma filleule dernièrement, non, on peut pas manger un bonbon avant de souper parce que ton bedon va être plein. Tu le sais, comme l'autre jour. Elle a fait la même affaire à son père, la petite. Il a dit, papa, tu sais que tu peux pas manger un bonbon. Écoute, c'est drôle à mort.
C'est ça. Il l'applique. Ça les fait réfléchir. Puis l'autre affaire que j'avais instaurée, parce que j'étais trop poche pour les aider dans leurs devoirs. Puis là, parce qu'ils aussi, c'était des petits maudits wise, fait qu'ils m'en passaient. Ah, pas de devoir aujourd'hui. Ah, et là, plus ça allait, plus il y avait jamais de devoir. Tu sais, il y avait un sac. Ah non, je l'ai fait à l'école. Il y avait jamais. J'ai dit, OK, parfait. J'étais tanné de gosser puis d'être obligé de vérifier les sacs. Puis là, des fois, ça revenait une note de devoir pas faite. Fait que j'ai dit, OK, parfait. C'est terminé. Tous les soirs. J'écoutais le tricheur dans ce temps-là. De 6h30 à 7h, on ferme tout. Il n'y a pas de son, pas d'image, pas de cellulaire, pas d'Internet. T'as pas de devoir, pas de problème. Lis un livre, fais un dessin. Il y a 30 minutes où c'est une activité passive, là, qui est les devoirs, qui est du dessin, comme je le disais. Là.
Très
c'est,
bon.
Fait que... Et c'est drôle, hein? Au début, OK, là, ils bougonnaient. Qu'est-ce que je vais lire? Fait que là, je trouvais des fois des livres sur le hockey ou des affaires de... Évidemment, c'est des maniaques de sport. Et rapidement, le livre a été mis de côté parce que il y avait tout le temps de quoi faire. C'est juste qu'ils le remettaient. Moi, je suis le prince de repousser à plus tard. Là. Puis, et eux avaient développé un peu cette affaire-là. Fait qu'ils remettaient tout ça à plus tard. Mais là, en ayant une demi-heure obligatoire, ben tant qu'à se virer... Il avait le droit de rester assis et de rien faire. Mais ben, on est trop plate. Fait que, tu sais, rapidement, puis ça l'a créé un bout de calme dans la maison. Fait qu'à partir de 7 heures, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'était un peu plus actif, mais ça revenait pas dans le piton, là, tu sais. C'était vraiment relax.
Puis d'aller se coucher après, ça devient pas mal plus facile parce que t'as pas des activités de, tu sais, dans le piton, comme tu dis, là.
Ouais. Hey, faut que je vous conte quelque chose. J'ai agi en innocent. Hein, que je suis innocent.
Tu vas-tu faire ça là? Ou l'autre côté de la porte.
Ah, tu veux qu'on fasse ça? Hein, que je suis innocent. Tu es un innocent, moi, hein?
Oui.
On est convaincu de ça, là.
Ça se sent pour ça.
Ça s'entend.
Ça sent, oui, ça. Non, mais dans ce que je vais vous raconter, ça se sent. Ah, oui? Ah, je suis un innocent. Vous comptez ça au retour.
Une coupe d'annonce, puis on revient. Hey, touche pas ce piton-là, là. Du bon le matin, au FM 93. Enfin, une émission qui a du contenant.
Couvre-plancher gagné. Ah! C'est beau des planchers de bois, hein? C'est beau. Moi, je trouve ça beau quand c'est mât. Mais là, mon dernier dada des derniers temps, c'est la céramique. Une tuile de céramique de 6 pieds par 8 pieds, moi, je trouve ça pas pire. Là. Fait que, mais je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs, on est supposé tourner des vidéos là-dessus. Mais couvre-plancher gagné, c'est tout ce qui existe en couvre-plancher. On vous l'offre. On vous offre même le service de designer gratuitement. Couvre-plancher gagné, c'est de la qualité. C'est des produits de qualité avec des rabais actuellement. C'est que là, on a appelé à l'usine de plancher Mercier. On parle ici des meilleurs planchers prévernis au niveau de la qualité. De la qualité du bois, de la qualité de la teinture, de la qualité du prévernis, de la qualité de la finition. C'est les planchers Mercier. On les a appelés, on dit, hey, vous avez des surplus d'inventaire, là, parce que là, ça produit. On va vous l'acheter, nous autres. Alors, chez Couvre-Plancher Gagné, vous avez des rabais jusqu'à 60% sur des planchers très tendance, très actuels. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est, vous savez, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant des années. Et c'est la largeur des planches. Moi, là, tu sais, je tripais sur le 3 pouces et quart à l'époque où je travaillais dans ce domaine-là. Puis, à cette heure, 3 pouces et quart, c'est quasiment l'étroite de la gang. Tu sais, du 4, ça vaut jusqu'à 8 pouces maintenant, je pense. Mais tu sais, il y a du 4 pouces et quart en spécial. Évidemment, on a des prix incroyables. Présentez-vous dans l'une ou l'autre des succursales de Couvre-Plancher Gagné, que ce soit sur le boulevard Hamel, en face du Ashton, là, près du Borsalino, au bout de à l'ancienne Lorette, là, c'est très facile à trouver. Ou bien de l'autre côté du fleuve, rue de la Concorde, en face du Costco, vous avez les deux magasins de Couvre-Plancher Gagné. Vous avez les échantillons de bois. Le magasin de Québec vient d'être rénové au grand complet. C'est tout est par secteur, par section. Tu veux du bois de cette qualité-là, de ce style-là, c'est là. Un autre marque, c'est là. La céramique, c'est là. Le vinyle, c'est là. C'est vraiment bien fait. Vous allez adorer. Et on a une designer qui va vous accompagner dans vos projets, et ce, gratuitement. Trois adresses. L'autre jour, Jeff Gagné, le propriétaire, dit « Ben, mêlez, toi, trois adresses. N'est deux magasins. Hey! » Trois adresses. Donc, sur Hamel, à l'ancienne Lorette, rue de la Concorde à Lévis, en face du Costco, et couvre-plancher-gagné.com. Fait trois.